à Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de 17h30 en universel du mardi 19 février 2019. Abdourahmane Dia et Raissa Girondin à la présentation. Voici les titres.
Au Sénégal, dernière semaine de campagne avant la présidentielle de dimanche. Focus dans nos dossiers du jour sur les défis à relever dans le secteur de l'éducation.
Aujourd'hui, les étudiants sont confrontés à de multiples problèmes. Ils ne sont pas assistés socialement. Ils sont laissés à eux-mêmes. Ils ont des problèmes pour s'insérer au niveau du campus.
Au Nigeria, après le report surprise des élections, le gouvernement est accusé par l'opposition de préparer des fraudes.
Au Mali, libération du préfet de Ténankou enlevé depuis le mois de mai dans le centre du pays.
Ici aux États-Unis, 16 États contestent en justice l'urgence nationale décrétée par Donald Trump.
Et ne ratez pas les informations sur l'actualité économique.
La CAF va appuyer les représentants africains au prochain mondial des moins de 20 ans dans les sports.
Mais tout d'abord, le journal.
Au Sénégal, le président sortant Macky Sall est donné favori du scrutin de ce dimanche face à 4 concurrents. Plus de 6 500 000 électeurs sont appelés aux urnes pour choisir leur président ce dimanche. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
L'actuel chef de l'État, Macky Sall, fait face à 4 prétendants, dont l'ancien premier ministre Idrissa Seck et Ousmane Sonko, au premier tour du scrutin. C'est le plus petit nombre de candidats à la présidentielle depuis 1988. Les partisans de M. Sall lui reconnaissent la modernisation du pays avec une croissance économique à plus de 6%, la réalisation d'une série d'infrastructures dont un nouvel aéroport et un train express qui relie Dakar à la capitale à la nouvelle ville Djamnyadjo. En face, il y a entre autres Ousmane Sonko qui bénéficie d'une sympathie particulière chez les jeunes en quête d'emploi. L'ancien premier ministre Idrissa Seck se présente pour la troisième fois. Maître Madike Niang, ancien ministre et Issa Sall, se jette dans la course pour la première fois. L'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, et le fils de l'ancien président Karim Wad, condamné pour corruption, sont hors de course. Khalifa Sall a exhorté ses militants à voter pour Idrissa Seck. Si aucun candidat n'obtient la majorité au premier tour, les deux meilleurs iront au second round le 24 mars.
Et nous reviendrons donc sur les élections au Sénégal en partie magazine.
Au Nigeria, le principal parti d'opposition accuse le gouvernement de contrôler la commission électorale et de préparer des fraudes massives lors du scrutin reporté à samedi prochain. Des précisions de John Lyndon.
Les Nigérians savent très bien que la commission électorale indépendante est sous contrôle total du gouvernement, a déclaré Uche Segundus, le directeur de campagne du PDP, le Parti populaire démocratique, lors d'une réunion d'urgence suite au report de la présidentielle initialement prévu le 16 février. Segundus a directement accusé le Congrès des progressistes d'organiser des fraudes massives, affirmant, sans en fournir les preuves, que plus d'un million d'électeurs fantômes iront voter. Le directeur de campagne du PDP accuse également la commission électorale indépendante d'avoir installé de nouveaux bureaux de vote le long des frontières avec le Niger et le Cameroun pour faire voter des ressortissants étrangers. Le PDP, principal parti d'opposition, assure que le programme informatique de la commission électorale a été infiltré par des virus et qu'elle doit nettoyer son système avant le 23 février. La question de la fraude a aussi été évoquée du côté du parti au pouvoir APC. Le président Muhammadu Buhari a appelé hier lors d'une réunion extraordinaire l'armée à être sans pitié contre les fraudeurs.
Au Mali, Makan Doumbia est enfin libre, préfet de Ténankou. Il a été enlevé en mai 2018 par des djihadistes présumés dans la région de Mopti, dans le centre du pays. En revanche, 4 civils qui étaient détenus dans cette région ont été tués. Le point avec Morgane Guériec.
Et c'est une action de la sécurité d'État, des services de renseignement maliens, qui a permis cette libération, d'après une source de sécurité qui a gardé l'anonymat. Makan Doumbia se trouvera à Bamako en soins intensifs. La même source a refusé de confirmer ou d'infirmer les informations selon lesquelles cette libération a été obtenue lors d'un échange de prisonniers. Par ailleurs, à Togere Koumbé, toujours dans le cercle de Ténankou et dans la région de Mopti, 4 otages de djihadistes présumés ont été tués la semaine dernière, selon l'association Kissal Poulakou, qui signifie « sauver les peules ». Le nord du Mali est tombé sous la coupe de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda en 2012. Ces groupes ont été en grande partie chassés par une intervention militaire internationale, mais des zones entières du pays échappent au contrôle des forces maliennes et sont régulièrement visées par des attaques, malgré la signature en 2015 d'un accord de paix.
En République démocratique du Congo, les syndicats de la société minière publique GKMine se démarquent de l'attaque anonyme contre la gestion de l'entreprise par le président du conseil d'administration, Albert Yuma. Lorsqu'on doit parler au nom des travailleurs, il n'y a que nous, syndicalistes, qui avons mandat. Nous ne savons pas d'où vient ce document, a déclaré Kasongo Mabuisha de l'intersyndicale de la GKMine. Le nouveau président, Félix Tshisekedi, a été interpellé lundi sur la gestion calamiteuse de la GKMine dans un mémorandum sur les réseaux sociaux. Ce texte accuse Albert Yuma de dilapider l'argent de l'entreprise.
Toujours en République démocratique du Congo, le sénateur Abdoulaye Yeroya Ndombassi est décédé ce mardi à Kinshasa à l'âge de 86 ans. Il a été l'un des 4 vice-présidents entre 2003 et 2006. Ancien compagnon du célèbre révolutionnaire Ernesto Che Guevara et ami de l'ancien premier ministre chinois Zhou Enlai, il était également proche de Laurent Désiré Kabila. Il a occupé jusqu'à son dernier soupir le poste de sénateur.
En Ouganda, le fils du président Yoweri Museveni, Kaneru Gaba Muozi, devient la deuxième personnalité de l'armée derrière son père. Le lieutenant-général Kaneru Gaba Muozi est considéré comme un probable successeur à son père âgé de 74 ans. Le président ougandais nie avoir pour ambition de faire entrer son fils en politique ou d'en faire son dauphin.
En Tanzanie, la chinoise Yang Fenlan, surnommée la reine de l'ivoire, a été condamnée à 15 ans de prison pour son rôle dans le trafic de 860 défenses d'éléphants entre 2000 et 2014. Présente en Tanzanie depuis les années 70, elle a été reconnue coupable d'avoir joué pendant plus de 10 ans le rôle d'intermédiaire entre un réseau de braconnage local et des acheteurs internationaux.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Donald Trump a dénoncé aujourd'hui la contestation par 16 États américains de sa déclaration d'urgence nationale pour lui permettre de contourner le Congrès pour obtenir un financement pour son projet de mur à la frontière avec le Mexique. Claire Morin-Gibourg.
Par une série de tweets, le président Donald Trump a exprimé sa colère face à la plainte déposée par 16 États devant un tribunal fédéral en Californie. Donald Trump a réagi, pointant du doigt des annulations d'infrastructures dues à des dépassements budgétaires en Californie, notamment une ligne de chemin de fer à grande vitesse entre Los Angeles et San Francisco. Ce projet est, pour le président américain, des centaines de fois plus coûteux que le mur. La plainte, déposée hier devant un tribunal fédéral en Californie, estime que la déclaration d'urgence contrevient à 2 dispositions constitutionnelles, l'une définissant les procédures législatives, l'autre attribuant au Congrès qui a le dernier mot en matière de financement public. Les plaignants remettent en cause le caractère d'urgence en se fondant sur des données publiées par des ministères ou des administrations fédérales comme les douanes qui écrivent que les entrées illégales sont au plus bas depuis 45 ans.
Toujours aux États-Unis, le sénateur indépendant Bernie Sanders, candidat malheureux aux primaires de 2016 face à Hillary Clinton, a annoncé qu'il allait briguer à nouveau l'investiture démocrate pour la présidentielle de 2020. Bernie Sanders, 77 ans, est l'un des favoris parmi la dizaine de candidats qui se sont déjà lancés dans la course pour déloger Donald Trump de la Maison-Blanche. Bernie Sanders, qui a des idées nettement marquées à gauche et qui assume l'étiquette socialiste, a attaqué violemment le président Donald Trump en annonçant ce matin sa candidature.
L'armée vénézuélienne se dit en alerte face à toute violation des frontières suite au bras de fer entre Washington et Caracas sur l'entrée de l'humanitaire américaine bloquée à la frontière. Le président américain Donald Trump a appelé hier les chefs militaires du Venezuela à se rallier à Juan Guaido. Après les États-Unis et plusieurs pays européens, le Japon reconnaît à son tour Juan Guaido comme président par intérim du Venezuela.
Le ministre israélien de l'immigration, Yoav Gallant, a appelé ce mardi les Juifs à émigrer en Israël après la profanation d'un cimetière juif dans le nord-est de la France. « Je condamne vigoureusement l'antisémitisme en France et on appelle aux Juifs rentrer à la maison, immigrer en Israël », a dit donc M. Gallant sur Twitter. La profanation de ce cimetière révèle les images de périodes sombres dans l'histoire du peuple juif, a dit Gallant.
L'Inde demande une action crédible et visible du Pakistan contre les responsables de l'attentat suicide qui a tué 41 paramilitaires au Cachemire indien la semaine dernière. Une attaque qui a exacerbé les tensions entre les deux pays. L'attentat a été revendiqué par le groupe islamiste basé au Pakistan.
En Bosnie, les autorités annoncent l'arrestation de 5 Afghans liés, selon elles, au terrorisme international. Ils ont été arrêtés à Bihać, dans le nord-ouest, et à Sarajevo, deux villes où ont transité depuis un an des milliers de migrants clandestins qui veulent rejoindre l'Europe. La Bosnie héberge actuellement 3900 migrants répartis dans 7 centres d'accueil.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'actualité économique en Afrique, c'est dans la Minute Éco présentée ce soir par Nani Talani.
La SGS Congo offre un départ négocié à ses employés relevant du stock monitoring pour réduire son personnel dans les villes de Pointe-Noire, Brazzaville, Loutété, Mossendjo, Oyo, Wesso et Infondo. Une note de la direction révèle que la société connaît un niveau élevé de déficit financier. Pour survivre, elle doit réduire ses charges de fonctionnement et les effectifs des permanents. Les intéressés recevront une indemnité compensatrice de préavis, ainsi que des indemnités de congé et de licenciement, une prime de bonne séparation et le 13e mois. L'Ouganda accuse le principal opérateur de télécommunications du pays, MTN, de sous-déclarer ses ventes et de causer des pertes de recettes publiques. Cette société compte plus de 10 millions d'abonnés. Son activité en Ouganda contribue à environ 4% de son bénéfice. Terminons avec la société nationale sud-africaine South African Airways qui va verser 78 millions de dollars à Comair à titre de dédommagement pour avoir mené des actions anticoncurrentielles. Financial Africa soutient que le différend a été provoqué par des primes payées par l'Afrique du Sud à diverses agences de voyage entre avril 2000 et mars 2005. Comair a donc poursuivi South African Airways en dommages-intérêts. La société sud-africaine aurait déjà commencé par verser des paiements qu'elle devra boucler d'ici juillet.
C'est l'heure de retrouver les sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
La CAF s'engage à soutenir les représentants africains au prochain mondial des moins de 20 ans.
Oui, l'annonce a été faite par le président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, en marge de la CAN des moins de 20 ans tenue au Niger du 2 au 17 février dernier. Sont concernés le Mali vainqueur de la compétition, le Sénégal, l'Afrique du Sud et le Nigeria. Écoutons Ahmad Ahmad.
On demandera au département de développement de la CAF de se réunir avec le groupe d'études techniques et les quatre pays qualifiés pour voir ensemble comment ils profiteront d'améliorer leur équipe en prévision de la Coupe du Monde, la Coupe du Monde de moins de 20 ans.
Le président de la CAF, Ahmad, était au micro de Siaka Traoré, notre envoyé spécial au Niger. Je rappelle que le mondial des moins de 20 ans aura lieu en Pologne du 25 mai au 16 juin prochain.
Ismaili gagne le club africain sur tapis vert.
Oui, même s'il a finalement été réintégré en Ligue des Champions, le club égyptien paye ainsi pour les jets de projectiles de ses supporters qui ont entraîné l'arrêt du match face au club africain le 18 janvier dernier. La commission de discipline de la CAF a annoncé que le club africain remporte le match 3-0 sur tapis vert. Ismaili devra aussi s'acquitter d'une amende de 40 000 dollars et écope de deux matchs à huis clos, dont un avec sursis valable 24 mois. C'est donc sans leurs supporters que les Égyptiens recevront le CS Constantine samedi, un match en retard comptant pour la troisième journée du groupe C en Ligue des Champions.
Suite des huitièmes de finale aller en Ligue des Champions ce soir.
Oui, Liverpool accueille le Bayern Munich pour le choc du jour à Anfield. Ce sera la sixième rencontre entre les deux équipes qui ne se sont plus affrontées depuis 2001 et une Super Coupe d'Europe remportée 3-2 par les Reds de Michael Owen face au Bayern d'Oliver Kahn. Dans l'autre match, le FC Barcelone se déplace à Lyon. Les Lyonnais ont déjà battu deux cadors européens cette saison. Manchester City de Pep Guardiola, battu 2-1 chez lui en phase de groupe, puis le PSG, défait pour la première fois en championnat cette saison. Reste que le Barça n'a jamais perdu face à Lyon en 6 matchs disputés, 4 défaites et 2 matchs nuls, et que l'OL sera privé à l'aller de son capitaine et maître à jouer, Nabil Fekir, suspendu.
Merci Yacouba.
Écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique, Abdourahmane Dia et Raissa Girondin, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour.
Au Nigeria, le principal parti d'opposition s'est réuni aujourd'hui à Abuja pour dénoncer les propos du président sortant, Muhammadu Buhari, qui dit avoir ordonné aux forces de sécurité d'agir sans pitié contre les semeurs de troubles durant les élections du samedi. À Abuja, les détails avec Gilbert Tomba.
La sortie du président nigérien Muhammadu Buhari au cours de la réunion de son parti a dominé les débats de la réunion d'urgence du principal parti d'opposition, le PDP. Le président du Parti démocratique du peuple, Uche Segondos, n'a pas caché sa colère suite à cette déclaration.
Vous ne demandez pas que ces gens soient arrêtés et traduits devant la justice, mais vous aviez donné l'ordre de les tuer. Monsieur le président, vous n'avez pas raison. Si les membres de votre parti ne peuvent pas vous le dire, nous allons vous le dire. Et c'est pour cela que nous sommes dans l'opposition. Nous vous demandons de revenir sur cette déclaration et ces instructions.
Même réaction de déception au sein des populations et de la société civile du pays. Pour Djoko Emmanuel du CODE, une ONG locale, il y a une loi qui prévoit une punition pour des actes de violence durant la période électorale.
La loi électorale stipule clairement la punition pour les gens qui attaquent des bureaux de vote. Donc, si vous emportez un bureau de vote le jour de vote, vous devez être arrêté et jugé. Si vous êtes coupable, vous serez condamné à 24 mois de prison. Mais pour un président de faire de telles déclarations qui ont tendance à provoquer des violences et qui demandent à l'armée de tirer sur les gens, c'est décevant.
La loi électorale interdit également la présence des éléments de l'armée nationale dans les bureaux de vote. Awal Moussa Rafsanjani du CISLAC, une organisation de la société civile, s'inquiète et pense que la déclaration du président pourrait avoir un impact négatif sur la participation des électeurs aux élections de ce samedi.
Il y aura une tension et cela pourrait décourager certains à sortir pour aller voter de peur d'être tués. Déjà, l'armée a publié un communiqué dans lequel elle affirme qu'elle va obéir aux instructions du président. Donc cela veut dire que beaucoup d'électeurs auront peur de sortir.
Les Nigériens sont appelés aux urnes ce 23 février pour des élections présidentielles et législatives initialement prévues pour le week-end dernier, mais reportées à la dernière minute par la CENI pour des raisons logistiques. La Commission électorale nationale indépendante a finalement cédé à la pression des partis politiques, levant l'interdiction de faire campagne avant le scrutin du samedi, comme le prévoit la loi électorale du pays. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Et direction le Sénégal, suite de la série sur les attentes de la population à quelques jours de la présidentielle du 24 février. Aujourd'hui, le secteur éducatif où les défis sont nombreux. Le point avec Sedina Abagué à Dakar.
Le Sénégal est souvent cité en exemple à l'échelle continentale en termes de qualité de l'enseignement. Seulement, il y a des défis à relever dans le domaine de l'éducation. L'enseignement supérieur a traversé des zones de turbulence. En 2018, la mort d'un étudiant à l'université de Saint-Louis lors d'affrontements avec les gendarmes a provoqué un mouvement de protestation qui a paralysé le système éducatif sénégalais pendant plusieurs semaines. Aaron Thiam, étudiant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, s'inquiète de son sort et espère que les conditions d'études seront améliorées par le futur chef de l'État.
L'étudiant, c'est quelqu'un qui a fait un cursus scolaire, ne serait-ce que s'il n'a pas doublé de classe de 13 années d'efforts. Et arrivé à l'université, je pense que sa seule préoccupation devrait être la réussite dans ses études. Et aujourd'hui, l'administration a mis en place aujourd'hui un système qui ne favorise pas l'amour des études. Aujourd'hui, les étudiants sont confrontés à de multiples problèmes. Ils ne sont pas assistés socialement. Ils sont laissés à eux-mêmes. Ils ont des problèmes pour s'insérer au niveau du campus. Et au niveau des amphis, c'est la bousculade. c'est la bagarre.
D'après le ministère de l'Éducation nationale du Sénégal, le système éducatif est géré par 92 560 enseignants, dont 25 452 femmes. Mais Gore Nying, parent d'élèves, déplore que certains enseignants entrent dans le métier par défaut et le considèrent comme un moyen d'ascension sociale.
La crise que traverse le secteur de l'éducation sénégalaise est due en partie aux personnes qui se lancent dans les métiers sans en avoir les compétences. L'éducation est un secteur stratégique pour la croissance d'un pays. La tendance du moment, je suis au chômage, bon, je veux me lancer dans l'éducation. Ce n'est pas normal. Le futur président du Sénégal a l'obligation d'assainir ce secteur.
En 2018, l'enseignement supérieur public comptait 114 840 étudiants et l'enseignement supérieur privé 47 795. Cela fait une population estudiantine de 162 635 étudiants contre 151 989 en 2016 au Sénégal. Des chiffres avancés par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. D'où l'inquiétude d'Aaron Thiam qui dénonce le nombre pléthorique des étudiants dans les amphithéâtres.
Le nombre pléthorique des étudiants ne correspond pas avec les infrastructures et les équipements qui sont aujourd'hui au niveau de l'université chez Anta Diop de Dakar. Mais aussi, la qualité de l'enseignement qui devrait être véhiculée par les professeurs n'est pas au rendez-vous parce que les professeurs aujourd'hui, nous sentons qu'ils ont d'autres préoccupations qui sont autres.
Dans un contexte démographique où les moins de 20 ans représentent 55% de la population, le Sénégal doit se doter d'un système éducatif performant. C'est du moins l'avis des citoyens rencontrés. Le président élu au soir du 24 février 2019 va-t-il réussir ce pari? Wait and see. À Dakar, Seydina Abagui pour VOA Afrique.
L'emploi des jeunes, quelles sont les solutions? C'est la question posée ce soir dans votre émission, à votre avis. D'après le Brookings Institute, le manque d'entreprises explique le chômage des jeunes africains et non le manque de formation. Conséquence, les jeunes africains sont surqualifiés et ne trouvent pas de travail. C'est d'ailleurs parmi les jeunes qu'il y a le plus de diplômés chômeurs. Morgane Guerriec, en votre compagnie, réagissez en direct à 18h05 temps universel en appelant le 001 202 205 26 33. Commentez et laissez vos numéros sur notre page Facebook, nous vous rappellerons.
L'opposition béninoise demande la modification du code électoral. Elle l'a fait savoir au cours d'une conférence de presse organisée à Cotonou hier. Ceci à 3 jours de l'ouverture des déclarations de candidature. Les leaders de l'opposition dénoncent le manque de sérénité et de transparence du processus électoral. Le point avec Ginette Fleur-Adandé, la correspondante de VOA Afrique à Cotonou.
L'opposition accuse le gouvernement, la Sénat et la Cour constitutionnelle d'être responsables des dysfonctionnements dans le processus électoral. Dans une déclaration portée par Candide Azanaï, ancien ministre de la Défense de Patrice Talon, elle exige la relecture du code électoral afin de corriger toutes les malfaçons normatives, les dénis démocratiques qu'il comporte.
L'atmosphère politique préélectorale actuelle est infectée par l'inexistence légale de la quasi-totalité des partis politiques, l'impossibilité aux partis politiques du président Patrice Talon à prendre part aux prochaines élections législatives. La persécution fiscale des potentiels candidats aux législatives, les flous qui obscurcissent le code électoral et qui exposent plusieurs des dispositions de son système comme un régime d'exclusion et d'injustice à conséquences imprévisibles.
À cette conférence de presse, on pouvait voir les anciens chefs d'État Boni Yayi et Nicéphore Soglo venus apporter leur soutien. Pour le représentant du Parti communiste du Bénin, l'instauration d'un certificat de conformité comme pièce de validité des dossiers de candidature des partis aux élections est illégale.
Nous ne voulons plus qu'on parle, n'est-ce pas, de certificat de conformité. Qu'on délivre, n'est-ce pas, provisoire à tous les partis. Ce qui passe est déjà très dangereux. Tous les rois sont déjà mis en place pour faire un rôle top électoral en faveur, n'est-ce pas, de la mouvance.
L'opposition exige la relecture pure et simple du code électoral afin de ne pas créer un climat de tension sans précédent. Pour Zouad Akpali, un des partisans de Patrice Talon, l'opposition doit cesser de distraire le peuple et jouer sa partition.
Ce n'est pas parce qu'une loi ne sert pas un intérêt privé ou un intérêt personnel qu'on puisse dire que cette loi ne sert pas l'intérêt général. On ne peut pas dire que 83 représentants du peuple dans leur majorité ont voté pour une loi et que tout le monde puisse dire que toutes ces lois sont à rejeter.
L'opposition béninoise, en tout cas, tient le gouvernement et les autres institutions impliquées dans l'organisation des élections législatives responsables de toutes les conséquences fâcheuses à venir. De Cotonou, Ginette Fleur-Adandé pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Les hôpitaux publics du Gabon n'ont pas la cote chez les usagers. La construction des centres hospitaliers universitaires n'a pas suffi à résoudre la problématique de la santé publique dans le pays. Entre déficit de médicaments et mauvaise qualité de l'accueil des malades aux urgences, le reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
Pierre Sima est un dessus du fonctionnement du centre hospitalier universitaire de Libreville. Son épouse, assurée de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, donc exonérée des frais d'hospitalisation, sort d'un accouchement difficile.
Ma femme, là, elle vient d'accoucher ici à l'hôpital dans de meilleures conditions, vu qu'elle est assurée. Mais on nous demande d'aller dans une clinique privée, tout simplement, parce qu'il n'y aurait plus de couveuses disponibles pour notre bébé ici au CHUL, alors que je viens de dépenser plus de 200 000 francs CFA.
Des histoires comme celle de Pierre Sima, il en existe des myriades au sein des hôpitaux publics au Gabon. Cas du trafic des médicaments attribués à tort ou à raison aux brancardiers, Aïcha Toubaba a été témoin d'une scène similaire.
Il y a un brancardier qui m'a demandé si je voulais aller au laboratoire. Il cherche à faire des business, c'est tout. Et des malades qui se plaignent après le bloc opératoire que leurs médicaments disparaissent. Et ça disparaît, c'est pas au bloc, c'est pas à la salle de réveil, mais les majeurs eux-mêmes de la salle de réveil disent que ce sont les brancardiers.
Des allégations rejetées en bloc par des brancardiers.
Les kits arrivent, c'est dans un coffre. Ça va un kit tenir quelque part, jamais. Quand ça sort du coffre, c'est qu'il y a un malade à opérer. Et a toujours la renommée, le brancardier.
Oui, le brancardier.
Le brancardier, c'est un voleur.
Prend quand il transporte
quand
le
il
malade.
Le malade.
Livre pour aller revendre.
C'est du mensonge.
Du vol de médicaments à la qualité de l'accueil qui laisse à désirer, la liste des récriminations d'usagers est longue dans les hôpitaux publics du Gabon. Serge Mikala, président du syndicat national des personnels de santé.
Les hôpitaux ne bénéficient plus de la subvention de l'État. Aujourd'hui, c'est réduit. Quand nous étions dans le CHL, le budget du CHL avoisinait 5-6 milliards. Aujourd'hui, nous sommes dans le CHU, le budget est réduit, nous tournons autour quasiment de 2 milliards. Et du coup, vous voyez, on condamne le praticien. Le médecin a volé, l'infirmier a détourné, la sage-femme a fait telle pratique, le brancardier vient convoyer les malades du portail pour orienter chez tel médecin pour avoir un petit subside. À ce niveau, l'hôpital va mal.
Le problème de santé publique est encore, hélas, trop souvent négligé avec des conséquences désastreuses malgré les efforts du gouvernement gabonais. Libreville, Ismaël Obiangze pour La Voix de l'Amérique.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VO Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Wake up, stand up Africa. Come on, so pop. Come on, dawn. Lu bare nga am lu bare nga man manula no peni immensity is your wealth immensity how your dreams se culture ya tu no se tere isua manula leni say way at say fetch teranga say dom manula again.
Cap Africa, un titre de Youssou N'Dour qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde de Michel Joseph, à la console Joe Gill, présentation Abdourahmane Dia et Raissa Gironda.
On reste en contact sur notre page Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voaafrique.com. Excellente suite de programme.
VOA Afrique, les infos.